l'école, j'étais tout le temps en trac. Les mathématiques, c'était pas mon truc. Les sciences physiques, la gymnastique, pas du tout mon truc. Quant à la grammaire et toutes les autres matières, elles ont un goût trop amer. Mon truc à moi, c'est pour rendre des petits trucs. Vous voyez, c'est des petits trucs que les gens reluquent. Je peux tout vendre, même des trucs atroces. Des trucs moches, des trucs qui clochent, ding dang dong, des trucs étriqués, des trucs à tirette, des trucs à languette, des trucs à scratch auxquels on s'attache. Des trucs qui craquent, des trucs qui craignent, des trucs contrefaits, des trucs parfaits, des trucs au poil, des trucs à trous, des trucs mous, des trucs à du tronc, des trucs qui font craque-boum. Des trucs à nichons qui disent oui, qui disent non. J'ai pas le trac du tout, c'est vraiment mon trip. Je voyage beaucoup, mes valises remplies à craquer. De trucs à sonnette, de trucs qui clignotent, de trucs qui vous tiennent occupés toute la sainte journée. Les gens ne se rappellent pas toujours mon nom. Ils disent des monsieur machin, des monsieur truc chose, alors je réponds. Oui, c'est ça, monsieur truc, ça me va, c'est divin. Oui, c'est ça, monsieur truc, ça me va, c'est divin.
Mon truc à moi, c'est vous vendre des petits trucs. Mon truc à moi, c'est vous vendre des petits trucs. Mon truc à moi, c'est vous vendre des petits trucs. Mon truc à moi, c'est vous vendre des petits trucs.
Vous êtes de retour à Délirium Environnemental, le magazine radio d'actualité en environnement. On a délaissé un petit peu nos petits cris d'animaux parce qu'on s'est rendu compte que c'était un petit peu complexe. Quoi que je pourrais reprendre Marianette Faugrillon à gorge grippée pour vous parler de biodiversité, parce que présentement à Paris, il y a une très grosse conférence, devrais-je dire, concernant la biodiversité, et notre spécialiste de la biodiversité, M. Nicolas Mainville, nous introduit cette conférence.
Ça, c'était le Lemming.
Le Lemming, on
sait. Eh bien, oui, on accumule les grosses conférences, et cette fois-ci, elle est très grosse. C'est à Paris que ça se passe. C'est la place où M. Chirac a fait des déclarations en fin de semaine sur évidemment la crise de la biodiversité. La fameuse sixième extinction de masse qui est déjà commencée, avec des rythmes de disparition d'espèces qui dépassent de 100 à 1000 fois celle du dernier des derniers millénaires, comme taux d'extinction, rythme d'extinction. Donc des nouvelles qui nous sortent de cette conférence qui regroupe 1200 chercheurs spécialistes de la biodiversité, qui lancent encore une fois un cri d'alarme à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper ce rythme de disparition d'espèces effréné. Et puis M. Chirac va proposer un plan assez radical, puisque depuis 1992, on cherche des moyens pour essayer de mettre en application les revendications qui ont été prises dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique à Rio de Janeiro. Et puis malgré qu'il y a 175 pays qui ont ratifié cette convention-là, sauf les États-Unis, on s'en rappelle, qui n'ont pas ratifié puisqu'il y avait beaucoup trop de pression par les compagnies biopharmaceutiques, eh bien, ces 175 pays qui ont ratifié la Convention cadre sur la diversité biologique n'ont pas réussi à établir vraiment un outil de travail efficace. Et puis, ce que le président Chirac a proposé, c'est d'avoir une espèce de coalition de tous les scientifiques, de tous les groupes sous l'égide de l'ONU qui permettrait de gérer de façon plus efficace toute cette crise de la biodiversité.
Mais on n'a pas déjà une convention sur la biodiversité?
Exactement. Cette convention-là, oui, qui est une convention cadre, mais qui n'est pas nécessairement efficace. On tente, en fait, de chercher un moyen pour... je dirais, augmenter la rapidité des efforts. Non, ça ne dit pas ça.
Ben, ce qu'on se rappelle aussi, c'est qu'en 92, à Rio, on avait fixé le but, qui était de diminuer le rythme de disparition des espèces. On a complètement été dans le champ. Et à Johannesburg, en 2002, on a essayé d'être un peu plus humble et de dire, on va essayer de stabiliser le rythme auquel les populations décroissent. On voit à quel point c'est loser. Là. Mm-hmm. On est tellement rendu bas qu'on va essayer que ben, si on disparaît 100 par année, ben, on va au moins essayer de stabiliser ça à 100. Et on n'a même pas été capable d'atteindre ce deuxième but-là.
Et peut-être juste rappeler en quoi, dans le fond, qu'est-ce qui fait que ces espèces-là deviennent si facilement menacées en voie de disparition?
Ah, il y a plusieurs causes, évidemment. La question de la perte d'habitat est centrale. C'est-à-dire que plus tu perds ton habitat, moins t'as la possibilité de survivre aux pressions humaines. Donc, la question de déforestation, de désertification aussi. L'introduction de nouvelles espèces vient vraiment contrecarrer l'intégrité des écosystèmes. C'est-à-dire que, par exemple, si une espèce qui vient d'un autre continent carrément arrive sur place, va vraiment influencer l'écosystème en tant que tel ou certaines espèces et va provoquer sa disparition. Vous savez qu'en ce moment, il y a 15 589 espèces qui sont répertoriées comme étant menacées, donc cette fameuse liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Le nombre d'espèces animales en péril a passé de 5200 en 1996 à 7266 en 2004. Donc ça augmente. Vous voyez que la liste augmente à chaque année. Mais comme tu le disais au début, un tiers des amphibiens qui est menacés de disparition, un quart des mammifères, c'est 11% des oiseaux qui sont menacés. Donc, on accumule ces chiffres-là. Et les premiers touchés, lorsqu'on parle de disparition de masse, ce sont... Bon, dans le futur, on parle de la mégafaune, donc surtout les grands mammifères, eux qui ont besoin d'un plus grand habitat pour survivre, et c'est évidemment très inquiétant.
Peut-être juste rappeler également une cause du fait que ces espèces-là sont menacées. Il y a également la surexploitation, on pense peut-être à la morue ici au Canada, donc surexploitation par l'être humain, je vous le rappelle. Rapidement, je pense qu'on va être obligé de passer aux OGM, parce qu'on a une super bonne nouvelle qui nous vient de la Hongrie, Nicolas Mainville.
Ben oui, la Hongrie qui a décidé de bannir. Mais là, t'as-tu un parti pris, toi? Une super bonne nouvelle?
Ben, ça me semblait une bonne nouvelle à première vue.
Pour la Hongrie.
Parti pris contre les OGM. Ben oui, la Hongrie a décidé de bannir le maïs Monsanto transgénique, le MON810, qu'elle a décidé de bannir du marché. Aucune production, aucune exportation, aucun transport, aucune possibilité d'avoir les graines à l'air libre en Hongrie dès maintenant. C'est le ministère de l'Agriculture qui a fait cette déclaration-là. Et puis, évidemment, c'est une nouvelle assez importante parce que la Hongrie, vous savez, qui vient de joindre l'Union européenne, est un des grands producteurs de grains pour la nouvelle Europe. Donc, c'est une nouvelle qui va faire probablement effet boule de neige dans l'Est de l'Europe et va probablement influencer d'autres décisions. Il y a quand même certains pays qui sont encore tout à fait favorables à la culture OGM, notamment en Pologne. Mais il y a l'Autriche, la France, l'Allemagne, la Grèce et le Luxembourg qui ont déjà banni certains produits Monsanto. Et Monsanto qui est vraiment pas très aimé dans cette région de la planète.
Et juste peut-être en passant pour vous parler de Monsanto pendant qu'on en parle, je pense que c'est important, juste de rappeler qu'en 2004 aux États-Unis, le total des amendes payées par les agriculteurs états-unis à Monsanto s'élève à 15 253 000 $. C'est un petit peu comme la cause de Percy Schmeiser où justement il s'est retrouvé avec son champ contaminé par des OGM, soi-disant contaminé par des OGM, c'est ce qu'il tenait comme discours. Lui n'avait pas de culture OGM et Monsanto est arrivé en disant « Vous n'avez pas le droit d'avoir ces cultures-là, vous me devez de l'argent. » Aux États-Unis, on a jusqu'à 90 poursuites légales et c'est encore pire ce qui risque d'arriver justement avec les pays en voie de développement, soit entre autres, on parle au Brésil ou à l'Inde.
Et ça, ce 15 millions, c'était aux États-Unis seulement ou partout?
15 millions US juste aux États-Unis.
Wow!
En 2004.
C'est quoi la moyenne par agriculteur?
La moyenne par agriculteur s'élève à 412 000 $, donc c'est quand même des montants assez significatif. Et je vous rappelle que Monsanto a payé une amende de 1 million de dollars américains pour avoir tenté de soudoyer le gouvernement indonésien afin justement d'obtenir une autorisation de commercialiser les OGM dans ce pays-là. Peut-être juste en terminant, parler de notre ami José Bové. qui tente d'arrêter un bateau à lui seul, José Bové de l'Union, la Confédération paysanne.
À lui seul, ça serait peut-être un
presque,
peu...
D'accord, il y a un petit peu d'aide de Greenpeace.
Et voilà, et bien oui, ils ont... dans le fond, ils ont essayé d'aborder un navire à 350 km des côtes. Dans le fond, vous connaissez Greenpeace, qui a une flotte de bateaux qui font des manifestations pro-environnementales. Eh bien, ont dégagé des petites embarcations. Ils ont été capables de s'accrocher après un gros bateau qui transportait une cargaison d'OGM à partir de l'Argentine et qui se rend jusqu'en France. Et on s'attend à ce que d'autres manifestations de ces groupes se fassent sentir, principalement aux États-Unis, au Brésil et bien entendu en France, qui en importe beaucoup.
Bravo à vous tous. On revient avec... Désolé, j'ai fait une petite bourde. C'est pas encore le temps des petites vites parce qu'on a des petites longues à traiter, des nouvelles, des grosses moyennes, des nouvelles relativement importantes. On vient de parler de biodiversité. Évidemment, les milieux naturels, entre autres les grands lacs qui à la base étaient naturels, sont très importants pour la biodiversité au Canada. Et je crois que c'est important de parler encore une fois d'une nouvelle étude qui vient de sortir concernant les niveaux d'eau dans les lacs Huron et Michigan. Il paraît que l'eau fuit, elle sort des grands lacs de façon assez impressionnante.
J'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a plus grand chose de naturel dans les grands lacs, mais bon, ma pensée vient d'être trahie. Eh bien, une étude qui a été pour cette fois-ci intéressamment financée par un groupe de citoyens, le GAB. C'est le groupe d'action pour la baie géorgienne. Eh bien, ce groupe-là a financé une étude de 200 000 $ pour savoir ce qu'il en était des niveaux d'eau des lacs Michigan et lac Huron. On vous rappelle que ces deux lacs-là, dans le fond, en constituent un seul gigantesque. Il n'y a pas de différence de niveau d'eau entre ces deux lacs-là. Dans le fond, ils reçoivent l'eau du lac supérieur. Ces deux lacs-là se jettent ensemble dans le lac Érié, après ça, Ontario et fleuve Saint-Laurent. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que depuis, bon, l'étude remonte à ce qui s'est passé depuis les années 1800. Eh bien, c'est plus de 80 cm de moyenne qui manque dans les eaux de ces deux lacs-là, les lacs Huron et Michigan. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est en 1862, des travaux d'érosion sur la rivière Saint-Clair, qui dans le fond permet à l'eau de ces deux lacs-là de s'écouler dans le lac Érié, qui est la grande responsable. Et donc ce que ça nous dit, c'est que faire des travaux de dragage pour permettre à des bateaux plus gros de passer, eh bien oui, c'est vrai, ça vide un lac. Et cette quantité d'eau qui descend, c'est l'équivalent du quart de l'eau qu'il y a dans le lac Érié. Donc, vous voyez à quel point, à chaque année, c'est le quart de l'eau du lac Érié qui sortait de ces lacs-là et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a en moyenne 80 cm d'eau de moins, ce qui fait que des milliers d'îles, principalement dans la baie géorgienne, qui est un coin de l'Ontario où il y a beaucoup de parcs naturels parce qu'il y a beaucoup de milieux humides à protéger, eh bien, il y a des milliers d'îles qui, souvent une année, ne sont absolument plus vivables pour la biodiversité parce que les milieux humides ne se créent pas.
Et ça risque de se répercuter éventuellement sur le fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'on parle dans cette étude, justement, peut-être d'une évaporation accrue pendant l'hiver du fait qu'un couvert neigeux ne serait plus sur les grands lacs ou une déponction faite par l'homme plus grande dragage?
La principale raison, c'est le dragage. Il y a aussi toutes les activités en berge. On a procédé beaucoup à des travaux qui servaient, dans le fond, à aller chercher du gravier dans le fond de ces lacs-là pour enrocher les rives. Donc, modifier vraiment le pourtour des rives. Au lieu qu'on ait une belle rive qui s'en va graduellement vers la rive, eh bien, on a une rive qui coupe carré dans le lac la topographie du lac. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cet hiver, ces deux lacs-là ont plus d'eau que d'habitude. Et donc là, ça vient complètement montrer aux gens à quel point, d'une année à l'autre, on n'est jamais sûr, mais ce qu'on se rappelle, c'est que malgré les résultats très intéressants de cet hiver-ci, faut pas se leurrer, la moyenne est quand même 80 cm, voire même 1 mètre plus bas que ce qui se passe depuis 1800.
Merci beaucoup, Nicolas Milot.
Toujours et intéressant. Hein?
Toujours intéressant de voir les
Grands
Lacs.
On est expert des Grands Lacs, en plus.
Complètement.
On est choyé.
Et Grands Lacs qui touchent aux États-Unis, États-Unis qui touchent à George Bush, George Bush qui touche à l'Alaska!
Vous pouvez y aller.
Et bien sûr, l'Alaska, des réserves pétrolières potentielles là-bas, et on tente d'aller les chercher par n'importe quel moyen.
Ben, en fait, on va les chercher depuis un bon petit bout de temps. Vous aviez une grosse réserve là-bas qui s'appelle la National Petroleum Reserve of Alaska. Donc la réserve nationale de pétrole d'Alaska, qui représente 10 millions d'hectares, et bien deux tiers de cette réserve est déjà allouée à l'exploitation pétrolière. Et puis Washington
réserve
vient d'ouvrir.
C'est une réserve naturelle, c'est pas une réserve.
C'est
pétrole.
Une réserve qui s'appelle la réserve nationale pétrolière, mais c'est pas partout qu'on fait
pétrole,
de l'exploitation. Il y a du pétrole, on s'entend là. Il y a du pétrole sur place, mais c'est pas toute la région qui est exploitée pour le pétrole. Et bien, l'administration Bush vient d'ouvrir une autre partie de cette réserve là, qui est immense, 10 millions d'hectares, rappelons-le, et déjà deux tiers étaient alloués à l'exploitation pétrolière. Donc cette réouverture à l'exploitation, évidemment, lance une certaine inquiétude chez les groupes environnementalistes, puisque déjà beaucoup de pression sur un autre parc, un refuge qui s'appelle le Arctic National Wildlife Refuge, qui est déjà prisé par l'administration Bush. Eh bien, pour l'instant, on ne touche pas à cette zone, mais évidemment, c'est déjà très inquiétant de voir ce pétrole couler à flot provenant de l'Alaska.
L'exploitation, ça c'était de l'exploitation pétrolière. On a également de l'exploitation minière qui se fait énormément et on ne vous cachera pas qu'on veut en faire tout près de Montréal, à Oka, et on appelle ça l'éventuelle mine ni au camp, Nicolas Milot. On veut absolument en entendre parler.
Oui, on est actuellement en audience publique au Bureau d'audience publique en environnement du Québec, le BAP, sur ce projet-là, un projet qui normalement ne devrait pas aller en audience publique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y aura moins de 7000 tonnes par jour de minerais d'extrait de la mine.
Ah, rien.
Vous avez déjà vu c'est quoi 7000 tonnes de minerais? Mais bon, c'est la réglementation québécoise qui est faible par endroit. Mais ce qui est préoccupant dans ce cas-là, c'est que c'est une mine de niobium. Le niobium, c'est un minerai qui est radioactif, qui est utilisé dans l'aérospatiale et la médecine. Et les gens d'Oka, tout près d'où va se réaliser ce projet-là, eh bien, ont déjà vu une mine de ce même type-là, de 61 à 76, avoir lieu dans ces coins. Là, et ça avait provoqué des choses complètement horribles. Par exemple, le dynamitage de la croûte pour aller chercher le minerai, eh bien, créait des fissures jusque dans les maisons des gens. Et il y a beaucoup de radon dans cette région-là. D'accord. Donc, le radon s'infiltrait dans les maisons. On avait une concentration très élevée de cette substance-là, qui est très, très nocive pour la santé. Donc, de fil en aiguille, en 2002, on a tenu une audience publique sur ce sujet-là pour savoir si l'exploitation d'une mine où il y a de la radioactivité entraînerait des dommages sur l'environnement et sur la santé. On a eu une recommandation du BAP qui est tout à fait floue, parce qu'encore une fois, c'était un mandat spécial donné au BAP par un gouvernement, donc on s'attendait à une recommandation spéciale. Et bien là, on retourne encore devant le BAP. M. Mulcair, le ministre de l'Environnement, à l'automne dernier, demandait d'aller en audience publique pour, cette fois-ci, regarder s'il pouvait y avoir des problèmes de l'exploitation de cette mine-là face à l'eau de surface et l'eau souterraine. Donc, une deuxième raison. Mais ce qu'on sait, c'est que cet été, il y a eu une entente entre le ministère de l'Environnement du Québec et la mine Niokan pour dire que ça va passer.
OK, mais justement, on parle d'eau. Je pense qu'il y a quand même des quantités assez phénoménales d'eau qui sont requises pour faire l'exploitation de cette mine-là. Je sais pas, tu parlais également d'eau secours qui refuserait peut-être de s'impliquer.
Oui, mais vous voyez, ce qui est tellement aberrant, c'est que la façon dont on se sert du Bureau des audiences publiques en environnement dans un cas comme celui-là est tout à fait ridicule. Et Eau Secours a décidé, eux, de ne pas perdre ni temps ni argent à participer à une audience publique qui, dans le fond, dont l'issue est déjà décidée d'avance.
Au Secours, qui est une coalition
québécoise sur la gestion responsable de l'eau au Québec, qui regroupe au plus d'un million de citoyens québécois, on vous le rappelle. Eh bien, la coalition qui décide de ne pas participer directement, mais bien entendu, appuie la coalition des citoyens d'Oka, qui s'est manifestée depuis 10 ans dans ce cas-là, pour qu'essayer que, mon Dieu, ça n'a pas de maudit bon sens de... Oubliez ça, le BAP, on est en train de vous montrer présentement qu'on peut s'en servir à bien des choses d'autres que faire une vraie lumière sur l'environnement.
On se souvient que le nouveau président du BAP est M. William Cosgrove. C'est une nomination qui a été énormément critiquée au Québec, nomination du Parti libéral, vous vous en doutez très bien, entre autres parce que M. Cosgrove était teinté, ou plutôt tatoué tout simplement, de l'idée de faire des PPP au Québec. William Cosgrove, gardez ça en tête.
Il y a plus de 80 ans, nous avons mis en marché des produits ultra révolutionnaires comme les BPC tels que ceux brûlés à Saint-Basile. L'agent orange répandu à coups de milliers de litres sur les campagnes vietnamiennes. Oui,
oui, papa!
L'herbicide Roundup avec ses petits copains, le maïs Roundup Ready, le soya Roundup Ready, le canola Roundup Ready.
Oui, papa!
Les petites betteraves qui brillent dans le noir, des tomates qui poussent déjà tout emballées avec du Saran Wrap et bien plus encore.
Oui, papa!
Chez Monsanto, on contrôle plus de 90% des cultures d'OGM dans le monde et nous sommes vendus dans tous les bons marchés à deux pas de l'église.
Oui, papa!
Vous savez, ici à Delirium, on est un peu fanatique et on aime bien ça lire des nouvelles en environnement. Oui. Et à toutes les semaines, on en lit beaucoup trop, on n'a pas le temps de tout vous les dire, donc on décide de vous faire ça en bref, pêle-mêle à la fin. Attention, si ça arrive en rafale.
Eh bien, savez-vous qu'il va y avoir une conférence des Nations Unies sur les catastrophes naturelles et que la délégation américaine fait de très fortes pressions en ce moment pour enlever le terme « changement climatique » de cette convention, puisque évidemment, l'administration Bush n'accepte pas la théorie des changements climatiques. Imaginez, catastrophe naturelle, pas de thème changement climatique. On suit le dossier.
Eh bien, vous vous souvenez sans doute du projet Rabaska, ce projet de fort méthanier à Lévis-Beaumont dont la population nous crie tout haut, tout fort depuis des mois qu'elle n'en veut pas. Eh bien, enfin, le projet de fort méthanier est, dans le fond, peut-être un peu plus remis en question. Le gouvernement fédéral demande de refaire nos devoirs et envoie le projet Rabaska en commission d'examen fédéral en fin de nouvelle.
Eh bien, la compagnie 3CI, excuse-moi, c'est à ton tour, Patrick,
ouais,
vas-y.
Faut que je rajoute sur Rabaska qu'il se passe des choses. En fait, ils ont essayé de le faire à Beaumont, ce terminal-là, et ça s'en va à Lévis, et il paraît que ça pousse, mesdames et messieurs, mais solidement, Gaz Métropolitain pousse auprès de la Chambre de commerce et les gens d'affaires là-bas, parce qu'il y a une grosse pièce à faire. C'est simple, à faire, une pièce à faire.
Pendant que Gaz Métropolitain fait des pressions pour le gaz naturel et ses phares méthaniers, eh bien, à Murdochville, il y a un autre parc éolien qui va naître avec la compagnie 3CI, un parc éolien qui va produire 54 mégawatts supplémentaires. En fait, ça s'additionne au combien de mégawatts qu'on allait déjà construire. Je le trouve pas sur mes papiers, mais bon, c'est une très bonne nouvelle et on félicite la compagnie 3CI pour ses efforts.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il développe ou il aide à développer l'installation des fameuses éoliennes à 3 mégawatts. Enfin, des éoliennes plus grosses,
oui.
Question d'en mettre moins, peut-être un beau geste. Moi, je vais du côté de la gestion des forêts. Eh bien, vous vous souvenez de la commission Coulombe sur la gestion de la forêt publique au Québec? Eh bien, le ministre délégué à la forêt, à la faune et au parc, Pierre Corbeil, qui ne sera peut-être pas remanié cette semaine, espérons-le pour lui, eh bien, entend donner rapidement, suite aux recommandations de la commission Coulombe sur la gestion de la forêt, il a même nommé Mme Paule Têtu, sous-ministre associée à la mise en œuvre du rapport de la commission Coulombe. Mme Têtu, qui a participé de très près à la rédaction et aux communications liées avec ce rapport-là, espérons qu'elle fera les choses aussi bien que le rapport a pu le paraître.
Espérons aussi que le reste du comité va être très bien construit avec les représentants de la société.
Allez. Ben, après le téflon, vous avez vu ça la semaine passée, téflon potentiellement cancérigène. Eh bien, pour la première fois, le cancer est devenu la plus importante cause de décès chez les États-Unis, dépassant les maladies cardiaques. On se souvient que plusieurs maladies, plusieurs cancers pourraient éventuellement être liés à des problèmes au niveau de l'environnement.
Bien dit. Eh bien, le recours collectif est mis en branle contre Noranda à Murdochville. On revient à Murdochville. 200 millions de dollars, ce recours collectif qui pourrait coûter à Noranda. Eh bien, c'est le 20 janvier que ça a commencé. On va suivre le dossier pour vous. C'est 500 Murdochvillois qui sont en fait à la base de cette plainte envers Noranda qui a pollué la région pendant plus de 20 ans et dont les sols contaminés auraient affecté leur santé.
phrases des choses de Murdochville.
Hey, hein, c'est incroyable.
Moi, je vous demande un petit 30 secondes de sortir de votre ouate québécoise. Mettez-vous dans un état où les besoins sont très, très primaires. Au Kenya, cette semaine, il vient des massacres pour de l'eau. Des guerriers Kikuyu et Maasai, armés de lances, de machettes, se sont, dans le fond, entretués pour de l'eau. Vous voyez qu'on est dans une situation très favorisée ici chez nous, alors pensez que dans le monde ailleurs, la réalité est fort différente et que ça vaut la peine de se tourner vers ces questions-là.
On se souvient entre autres que le programme des Nations Unies pour l'environnement avait soulevé le fait qu'il risque d'y avoir de plus en plus de conflits, entre autres parce que la gestion de l'eau devient problématique pour plusieurs personnes, donc c'en est un exemple flagrant et très triste, j'en conviens.
Eh bien, une nouvelle étude qui sort une classification des pays de la planète selon leur impact environnemental et leur gestion de l'environnement. Qui est au top de la liste, mesdames et messieurs? Le savez-vous? Le meilleur pays environnemental au monde? La Finlande. Le deuxième? La Norvège. Le troisième? L'Uruguay. Où est le Canada, mesdames et messieurs?
142.
On est cinquième. Les États-Unis, 45e. Le dernier, sous la liste, la Corée du Nord.
Le Canada est cinquième après les rapports de l'OCDE, après le rapport de la commissaire à l'environnement. Ont-ils payé pour financer cette étude?
C'est dû au grand territoire vaste non exploité qui sera très bientôt.
Mais tu m'étonnes. Eh bien, les États-Unis, malgré leur handicap mental, je parlais de leur président, pardon. Eh bien, malgré leurs problèmes environnementaux, eh bien, rendez-vous compte qu'ils sont quand même des initiateurs de bonnes initiatives. Ça, c'est...
Sacrée bonne idée.
En fait, première voie réservée aux véhicules hybrides qui va avoir lieu en Virginie. Félicitations, une voie réservée pour véhicules hybrides. J'en veux un et je veux une voie.
Eh bien, comme quoi science et environnement ne vont peut-être pas toujours ensemble, eh bien, il y a des chercheurs qui cherchent à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la péninsule du Yucatan. Est-ce que c'est le grand cratère qui aurait causé l'extinction des dinosaures? Eh bien, là, les personnes qui vivent sur le bord et qui ont les intérêts environnementaux à cœur, eh bien, disent non, il y a hors de question que vous ayez sondé le fond de la péninsule du Yucatan avec vos canons à air comprimé, même chose qui se passait dans le golfe du Saint-Laurent pour du pétrole. Vous allez détruire la faune marine, vous allez empêcher les baleines de trouver leur chemin. Donc, allô les scientifiques, réfléchissez un peu à l'ensemble de vos actes avant de passer à l'action.
Étonnant quand même. Eh bien, je fais un lien avec cette étude qui vient de paraître aux États-Unis. Eh bien, écoutez, paraît-il que vous vous en souvenez de cette extinction, la grande extinction, il y a 250 millions d'années. On l'associait à un astéroïde. Plusieurs scientifiques l'associent encore à un astéroïde. Eh bien là, quelques groupes de chercheurs soulèveraient l'hypothèse d'un changement climatique que dû justement à une propulsion volcaneuse, si on peut dire les choses. Volcanique, des volcans qui crachent dans l'air, vous voyez? Donc ce serait un changement climatique potentiel. Dossier à suivre et inquiétant si c'est le cas.
Autre dossier à suivre dans la question de biodiversité, eh bien on a dénombré 4500 braconniers au Québec en 2004. Une belle entrée pour notre entrevue qui va venir après la pause. Patrick, tu nous présentes ça?
Monsieur Jean-François Gagnon, qui est le directeur général de la Société pour la nature et les parcs, soit la SNAP, viendra justement nous parler de la situation des aires protégées au Québec, qu'on sait qu'on n'en a pas beaucoup, mais surtout du parc d'Oka et du parc du Mont-Orfer, deux parcs provinciaux menacés. Donc, après la pause, revenez.